C'est intéressant ce que disait Sophia Aram sur le politiquement correct. Vous savez, le politiquement correct, cette façon de parler et de penser qui a eu son heure de gloire au début des années 90 aux États-Unis et qui n'a cessé d'être remise en cause jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu comme on associe de plus en plus le politiquement correct à la bien-pensance ou à la langue de bois pour lui opposer la liberté d'expression à tout va. Je suis Charlie, sur le papier, ça aurait dû être le triomphe du politiquement incorrect. Mais c'est pas vraiment ça. Vous avez remarqué ce slogan d'unité nationale, tout le monde se l'est approprié et l'a totalement vidé de son sens. Je suis Charlie, c'est plus du tout Je suis Charlie Hebdo. Hein. Non, Je suis Charlie, c'est plus la liberté d'expression. Mais attention, pas non plus n'importe quelle liberté d'expression, faut être raisonnable quand même. Je suis Charlie à condition de ne heurter personne. En fait, Je suis Charlie, c'est un slogan qui s'est fait rattraper et bouffer, littéralement, par le politiquement correct. Au point de l'incarner, ce politiquement correct. À Angoulême, jeudi dernier, quand on a remis un trophée à Charlie Hebdo, celui qui est venu chercher le prix, Jean-Christophe Menu, a commencé son discours en disant « Qui est vraiment Charlie? En fait, on s'en branle. » Et le maire d'Angoulême, qui était devant lui et qui était pourtant très Charlie, bah, il s'est fait traiter de con par Charlie. Bah oui, parce que si on est Charlie, faut encore en payer le prix.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang, mon invité aujourd'hui. On le surnomme le mandarin des lettres, on l'aime autant qu'on le déteste, mais ce qu'on peut lui reconnaître, c'est son inextinguible liberté de ton, de style et de pensée. Bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Le politiquement correct, Philippe Solers, c'est pas vraiment votre tasse de thé, si?
Écoutez, correct me déplaît. Je n'aime pas le mot correct, être incorrect non plus. D'ailleurs, je n'aime pas les corrections. Ça sent la remise de copie, etc. Est-ce qu'on va donner une note à l'école, quoi? Mais moi, je suis d'une autre école où il n'y a pas de correct.
Vous êtes Charlie, Philippe Solers?
Écoutez, franchement, je n'aurais pas la prétention d'être Charlie. Il y a déjà tellement de foule qui s'enthousiasme pour ça. Non, je suis à part, je ne suis pas contre, mais franchement, Charlie Chaplin, oui, par exemple, ou De Gaulle, si vous voulez, Charlie, oui, bon, tout ça. Oh là là, je n'aime pas les rassemblements.
Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette récupération de ce slogan par les politiques, mais aussi par l'ensemble de la société, au point de devenir une devise républicaine quasi obligée? C'est ça qui vous gêne, j'ai l'impression.
Ce qui me gêne, c'est chaque fois qu'on parle d'union, d'union nationale. Si on parle de nationale, je me sens déjà un peu à l'étroit, un peu hexagonalement dissous. Enfin, le rassemblement, il faut se rassembler. Tout ça, écoutez, non,
c'est intéressant,
je sais pas, non, non.
Cette notion de slogan, parce que dans votre nouveau roman L'école du mystère, vous déplorez la pratique d'un de vos personnages qui ne lit que les titres de journaux, et je vous cite, qui réduit sa pensée à un message instantané et pratique. C'est un peu ça, le slogan « Je suis Charlie ».
C'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est un slogan, c'est de la communication qui fait long feu très vite, parce qu'il se renverse dans son contraire, c'est ça qu'il faut apprécier. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien à voir avec quand même un massacre, enfin, tout à fait épouvantable. Alors après ça, vous avez... Bon, je préférerais dire que je suis cyber-cacher.
D'accord.
Voyez-vous, parce que là, oui, parce que je ne suis pas sans cybercacher. Voilà, ça, j'ai pas vu de manifestation extraordinaire là-dessus. Voilà.
En quoi la littérature peut être un antidote ou une échappatoire à tout ça?
La littérature, lorsqu'il y a un problème social important, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Hemingway, c'est la littérature est toujours en première ligne. Autrement dit, la littérature n'est pas là pour dire le bien. La littérature dérange. La littérature, c'est une singularité qui s'exprime, la vraie vie, enfin vécue, comme dit Proust, et ça dérange, parce que si on est dans la communication et les rassemblements, qui est-ce qui est là? Qui est là? Qui pense?
Donc elle est essentiellement politiquement incorrecte, la littérature.
Elle est essentiellement politique. Et politique, ça veut dire pas forcément incorrect. La notion de correction ne s'impose pas. Elle est politique parce qu'elle est singulière, et qu'elle dit la vérité sur la vie.
L'école du mystère, c'est votre 26e roman, si j'ai bien compté, après des textes cultes hein, comme Paradis, Femme, La guerre du goût, ou plus récemment Médium, et Il y a deux ans, auquel ce nouveau roman, à mon sens, fait écho. C'est également un livre très érudit, très lettré, très insoumis, où vous tenez évidemment le premier rôle pour fustiger le conformisme. Vous n'avez pas l'impression, Philippe Solers, d'écrire toujours la même chose comme une sorte de ressassement?
La répétition me convient. Si vous... vous dites ça à Jean-Sébastien Bach, il vous aurait dit « Oh, écoutez, moi ça me plaît, je fais encore une cantate. » Et vous n'avez pas l'impression, Bach, que vous en avez marre de faire des cantates, mais il vous aurait répondu « Écoutez, je suis comme ça, moi, ça me vient. »
Et il aurait sans doute répondu « Ce n'est jamais vraiment la même chose. »
Et évidemment que c'est jamais vraiment la même chose, qu'il y a des variantes, etc. Mais si on veut se débarrasser de ce qui est écrit, on dit « Oh, encore un Solers. »
Ce que ça dit, quand même, le ressassement et le retour de ces mêmes obsessions.
C'est pas la répétition. La répétition, c'est des variantes, c'est des compositions. J'essaye de faire des compositions différentes. Là, par exemple, je suis assez content de la composition du livre, c'est-à-dire qu'une chose suit l'autre, pas forcément dans l'ordre de cinématographique, mais avec une intensité spéciale dans les phrases, quoi.
Certes, et on va en reparler, de la forme, évidemment, qui est très singulière.
Mais la littérature sans forme, il n'y a plus rien.
Mais dans ce que vous dites, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on ne l'écoute plus, en réalité, l'écrivain? Qu'il faut qu'il répète, qu'il réécrive.
Oui, en fait, là, le problème, c'est pas moi.
C'est bien la première fois.
C'est tout simplement le fait de savoir qui lit ou qui ne lit plus, hein, qui a encore une mémoire active ou si la lecture n'est pas en train de disparaître. On vous fait quelques prestiges comme ça, par exemple. Modiano, prix Nobel, il y a longtemps qu'il aurait dû avoir le prix Nobel. Maintenant, moi, je l'aurais donné plutôt à Roberto Saviano, condamné à mort par la mafia, Gomorra, etc., pour son livre extraordinaire que je recommande à tous les auditeurs, à savoir Extra pur sur l'intensité du marché de la cocaïne.
On va en reparler de tout ça et de votre vision de la littérature, de votre dernier roman, L'école du mystère, Philippe Solers. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se dit dans l'actualité de la culture aujourd'hui, lundi 2 février?
Je parle de tous les sujets sans avoir peur voilà, je parle du monde arabe, je parle des jeunes musulmans, je n'hésite pas à m'en moquer. Et peut-être que c'est pour ça que ça a trouvé un écho, je ne sais pas.
Phylactère et palmarès de caractère à Angoulême après avoir remis son grand prix au mythique mangaka Otomo jeudi dernier. La 42e édition du festival de la BD Charentais a décerné son fauve d'or du meilleur album à l'Arabe du futur de Riyad Satouf. Le récit drôle et acide de sa jeunesse syrienne. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'il est ouf, ce Satouf. Cicciolini, c'est fini. Le pianiste virtuose italien Aldo Cicciolini s'est éteint hier en région parisienne à l'âge de 89 ans. Fervent défenseur de Saint-Saëns, Debussy et Ravel, amoureux de la langue française, il se considérait avant tout comme un passeur de flambeaux. Alors ciao, Aldo.
I love you.
Des frissons à haute dose pour It Follows et les prix aussi. La 22e édition du Festival du film fantastique de Gérard Mer a couronné dimanche It Follows, le deuxième long métrage ô combien oppressant de l'américain David Robert Mitchell. Le film repart avec le grand prix du festival et le prix de la critique. Alors on ose It Follows.
The magic moon to wish upon.
Bob is back à 73 ans. Bob Dylan sort aujourd'hui Shadows in the Night, son 36e album studio. Voix nasillarde et ambiance feel good. Le Zim reprend 10 standards des années jazz, tous déjà interprétés par Sinatra. Pas de hic avec les classiques, que du hip. À Nancy, ce soir, on lit le son et l'écrit. Dès 18h, les rencontres du livre sur la place reçoivent Adrien Bosque, l'auteur de Constellation et lauréat du prix de l'Académie française. Le jeune homme jouera le jeu de la rencontre en public au son des violons du virtuose Renaud Capuçon, qui jouera le répertoire de Ginette Neveu, dur de trouver mieux. Ça doit vous réjouir, Philippe Solers, qui a encore ce type d'événement à l'Opéra de Nancy, le répertoire de Ginette Neveu, l'histoire, un grand violoniste, un jeune écrivain, c'est réjouissant, non ?
Vous voyez, Augustin, je crois que la musique nous sauvera. La musique est là pour résister absolument à tout. Je vous parlais de Jean-Sébastien Bach d'une façon un peu exagérée. Mais enfin, je vis dans la musique. Pour moi, les mots sont de la musique, les phrases sont de la musique. Et la musique permet de se sauver à chaque instant. Alors, il y a des musiques, il y a plein de musiques, mais enfin, vous savez, Mozart, c'est bien. Hein.
Et les jeunes écrivains, Philippe Solers, dans le cadre de votre revue L'Infini, vous les lisez aussi, je suppose ?
Absolument.
Il y en a
non
qui sortent
ça,
du lot.
Mais je peux vous recommander tout de suite deux livres. Il y a un livre de Yannick Enel, qui est un écrivain considérable déjà, avec le livre sur Jan Garski, etc. Et là, c'est Je cherche l'Italie, et l'autre de Valentin Rey, qui s'appelle Noir Parfait, qui est une vision extraordinaire d'une apocalypse intérieure. Donc, vous voyez, les jeunes écrivains, ils ont déjà 35 ou 40 ans, mais on peut attendre beaucoup. Il y a beaucoup de talent.
Vous trouvez, dans la littérature française contemporaine, l'insurrection que vous défendez depuis...
C'est l'insurrection par l'écart, par le décalage, par le fait de s'inventer autrement, malgré la société qui ne veut pas que vous existiez.
Oui, parce que c'est intéressant, quand on vous lit dans vos derniers romans, vous vous référez surtout à Saint-Simon, Lautréamont, Chateaubriand. C'est d'abord dans le passé, j'ai l'impression, que vous trouvez matière à cette insurrection par l'écart.
Et les morts m'interpellent. La bibliothèque me fit signe. Je rêve d'eux. À mon avis, rien n'est plus romanesque que la vie de gens dont vous venez de citer le nom, qui est était-ce Rimbaud ? Qui était-ce Baudelaire ? Qui était Saint-Simon dans Versailles ? En écrivant la nuit à la bougie. Voilà. Les vrais personnages romanesques sont ceux-là. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs, dit Baudelaire. Eh bien, j'entends cette douleur et il m'appelle et je leur réponds.
C'est la raison pour laquelle ce nouveau livre, L'école du mystère, suinte, certains diront même qu'il pastiche un certain Marcel Proust. Dans le sujet, dans l'effet personnage, il y a une Odette. Dans les circonvolutions de la phrase, je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas et j'espère que c'est un compliment extraordinaire. Vous comprenez, prenez Houellebecq, il prend Huysmans. Huysmans meurt en 1907. En 1908, quelqu'un surgit et va écrire La recherche du temps perdu. C'est Marcel Proust. On a l'impression qu'il n'est plus là. Mais si, il est là. Voyons. Puis il n'y a pas que lui. Il y a tout le reste. Tout le XXe siècle vous appelle avec des chefs-d'œuvre.
Mais pourquoi Proust ?
Proust parce que c'est la mémoire, parce que c'est la vie réellement vécue, la vraie vie réellement vécue, le fait de retrouver le temps se perd, vous perdez votre temps, Augustin, et si vous ne résistez
ça va,
pas...
Ça je vous remercie.
si vous ne résistez pas, ce que je vous souhaite, non, le temps perdu, voilà. Et où en sommes-nous avec le temps ? Vous vous rappelez cette merveilleuse séquence de Arthur Cravant qui va visiter André Gide. Et il sort et il dit à Gide, « Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps ?» Et Gide sort sa montre et dit « Il est 6h15 ». Non, c'était pas la question.
Dans un roman de Philippe Solers, il y a toujours Philippe Solers.
Ben, je peux pas faire comme s'il n'existait pas. On me le conseille pourtant de ne pas exister, mais je n'obéis pas. Je suis, de ce point de vue-là, désobéissant.
Au risque, parfois, de vous regarder écrire, de vous écouter écrire, de partir dans des digressions, au risque, parfois, d'exclure un peu le lecteur.
Le lecteur existe-t-il autrement que singulier ? Je ne sais pas, les lecteurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le lecteur, oui, il y en a, oui. Non, il s'inclut, il écoute.
Et tant pis pour lui s'il reste dehors ?
Les lecteurs que je connais, qui se manifestent, sont rentrés, peut-être pas dans tout, mais par moments, exactement là où il faut.
On va voir s'ils vont rentrer dans cette école du mystère, dont on va reparler, évidemment. C'est un roman très singulier, qui, comment dire, n'aurait pu être écrit que par vous, Philippe Solers. Vous connaissez Chris Isaac ? Qu'on entend Chris Isaac, là, hein ? Enfin, je vous propose d'écouter ces jeux interdits à lui. Wicked Games dans Boomerang. World War.
would desire to make foolish people. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No,
sur France Inter.
Mais faut-il vraiment lui tirer le portrait depuis le temps qu'il arpente les plateaux de télévision, qu'il squatte les magazines, qu'il promène son humeur un peu partout? Vous l'avez forcément déjà vu, ou même croisé, cette icône de Saint-Germain-des-Prés. On est quelque part entre la reine d'Angleterre et Winnie l'ourson. Un peu moins rondouillard que dans le temps, mais l'air toujours aussi énigmatique, espiègle, un peu ronchon. Il a le cheveu blanc, coupé court, l'œil qui pétille de je ne sais quel éclat, brillant, malicieux, moins lubrique que d'ordinaire, je ne sais pas comment je dois le prendre. Il faut se l'imaginer dans le studio à ma droite avec son allure, sa veste noire élégante classique, chemise blanche au-dessus de tout soupçon, sous une petite laine, pantalon de costume, mocassin de ville, chevalière et bagouze de grand seigneur au doigt. Philippe Solers est mon invité dans Boomerang pour parler de ce roman, ce 26e roman L'École du mystère, dans lequel vous vous livrez, Philippe, à une critique en règle de notre société normée, adepte du politiquement correct et du prêt-à-penser, une société incarnée par ce personnage lambda que vous appelez Fanny. C'est qui Fanny ?
Fanny est un personnage multiple. Il n'y a plus en somme que des Fanny dont le sexe est indécis, qui est soit une femme, soit un homme, qu'on rencontre partout. Et en effet, ce sont des personnages corrects.
Mais alors, pourquoi Fanny ?
Fanny, parce que nous sommes en pleine époque fannymiste. Voyez-vous, c'est-à-dire que c'est Fanny, ce sont des fans, ce sont des fans d'eux-mêmes. Enfin, je ne sais pas, Fanny m'est venue comme ça spontanément. J'ai décidé d'appeler Fanny indistinctement, en traçant les portraits de ce qu'est devenu la guerre des sexes, en quelque sorte, enfin, bon, qui sévit absolument partout entre les hommes et les femmes. Enfin, ça, c'est un point admirable, d'une certaine façon. Donc, ça fait partie de cette population, disons, petite bourgeoise, qui est là et qui envahit tout sous une forme agressive et ultra narcissique.
Il vous arrive d'être un petit peu Fanny, vous ?
Non, sans quoi je ne pourrais pas les décrire. J'observe. J'écoute beaucoup des conversations.
Ce qui est amusant, c'est que vous vous posez en victime de ces Fanny. Vous dites que quoi que vous fassiez, elle vous juge, elle vous sanctionne, elle vous donne de mauvaises notes, pour vous citer. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, ça veut dire que je ne plais pas aux Fanny. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est voilà, c'est tout. Il y a quelque chose qui déplaît, je ne sais pas à quoi ça tient. Ça tient, je crois, à mon attention extrême. C'est-à-dire que je les écoute beaucoup. Donc j'écoute leur conversation, etc. Je les vois s'agiter sur leur portable, communiquer à chaque instant. Ne plus être capable d'avoir une conversation avec le partenaire ou la partenaire qui les concerne pourtant à côté d'eux. Et donc, tout de suite, c'est les portables, c'est l'écoute, c'est les soins. Donc, c'est la masse, la masse, l'océanique des Fanny dans la communication publicitaire générale.
Alors, à côté de cette horde de Fanny, ce collectif de Fanny qui ne souffre pas le mystère, pour reprendre le titre de votre livre.
Il n'y a pas de mystère, là. Il faut communiquer rapidement.
Il y a un personnage.
SMS, c'est sans mystère, en fait. Ça, ça fait le code. Oui.
Il y a un autre personnage qui est très singulier, lui, auquel vous vouez une vénération, qui s'appelle Manon.
Oui.
Et Manon, vous la désignez comme votre sœur, comme la sœur du narrateur, effectivement. Et avec qui le narrateur se livre à des jeux interdits, des jeux incestueux, il faut le dire tout de suite. C'est un personnage de roman, évidemment.
C'est un personnage de roman, bien entendu.
Parce que l'apologie de l'inceste, c'est quand même particulier, Philippe Solers, vous conviendrez.
L'inceste est quelque chose d'absolument punissable, s'il n'est pas consenti, comme dans ce cas-là. C'est-à-dire que là, c'est la question de l'enfance partagée. Hein. C'est l'érotisme enfantin. Le ver, paradis des amours enfantines, dit Baudelaire dans ce poème génial, dont vous vous rappelez le principe, le vers principal, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets.
Mais
voilà.
Même consenti, Philippe Solers, c'est quand même le premier tabou sur lequel se fonde une société, la prohibition de l'inceste.
Oui, mais là, entre frères et sœurs, c'est extrêmement intéressant, parce que le père, mère, etc., c'est tout à fait tabou. Même il y a une tante assez spéciale.
Tante Odette,
ouais. Oui, c'est ça.
Ouais.
Et
qu'est-ce que vous voulez ? Un inceste, ce serait trop beau. Il en faut un inceste au carré.
Oui, au cube.
Au cube.
Écoutez, voilà, c'est donc une imagination. Il y a très peu de livres qui évoquent ça d'une façon, disons, crue. Hein, voilà. Ce sont d'abord des jeux enfantins. Écoutez, là, tout le monde doit se rappeler ou pas son enfance. Qu'est-ce qu'un adulte ? C'est un enfant qui a cédé. C'est un enfant raté, un adulte.
Mais alors précisément,
il faut maintenir l'enfance.
Ce qui est très troublant.
L'enfance est très, très, très érotique, vous savez.
Oui, mais alors vous, ce qui est très troublant, c'est que cette histoire d'inceste, vous la mettez en lien avec une éducation religieuse catholique dont vous avez bénéficié, dont votre narrateur, du moins, a bénéficié.
Oui.
Je vais lire quelques lignes qui offrent un éclairage assez inédit sur votre vision de l'Église catholique. Philippe Solers, âme sensible, s'abstenir. Même si elle a tendance à devenir une simple agence humanitaire, l'Église catholique reste une école de perversion plus ou moins bien comprise. Les prêtres crétins pédophiles sont des arriérés locaux de cette convocation des cinq sens. Le crime d'acte est un manque d'imagination et de sensibilité. Le crime de pensée, lui, révèle un principe de délicatesse. Alors, cela dit, vous dites que la réalisation, elle est vraiment dans le fantasme ici.
Écoutez,
elle doit rester dans le fantasme.
Je ne dis pas ça. Hein.
Je vous aide là.
Le roman décrit un certain nombre de situations qui sont tout à fait plausibles. Plausible.
Quand vous dites que l'Église catholique reste une école de la perversion.
Oh oui, bien entendu.
C'est un compliment pour vous.
Mais écoutez, oui, d'autant plus aujourd'hui. Enfin, je ne parle pas de ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire en effet une agence humanitaire barbante, dépassée, tout ce que vous voudrez. Bon, pourquoi pas. Mais l'art. C'est quoi ? C'est quoi allons en Italie, Augustin, et nous allons parler de cette splendeur dans les tableaux, dans l'architecture, et nous allons parler de la splendeur de la musique, etc. Voilà, c'est tout. Allons à Venise.
Vous voulez dire que l'enjeu, il est esthétique pour vous, essentiellement ?
Mais oui, mais esthétique, on a l'impression que ça rabougrit la question. L'art est quelque chose sans quoi, s'il n'y avait pas la musique, écoutez... La vie serait une erreur, comme dit Nietzsche.
C'est difficile de ne pas vous lire comme un fervent défenseur de la pure provocation, Philippe Solers.
De la pure vérité qui aujourd'hui passe pour de la provocation. Ce qui est étrange, pourquoi en est-on arrivé au fait de dire la vérité ? Tout ne serait-il plus que mensonge ? C'est une question que je pose.
Non, mais quand vous dites que les femmes se foutent de la sexualité, qu'on peut pas se débrouiller à New York si on n'est pas gay, vous provoquez un peu, là.
Non, ce sont des notes de voyage, oui. Je suis sur le terrain.
Au moins, ce qu'on peut vous reconnaître, c'est d'interroger, de se poser des questions.
Robert Maggiore, à quoi sert la philosophie ?
À rien. Elle ne sert à rien, mais on peut pas s'en passer. Je crois que la question à quoi ça sert, c'est une question qu'on peut adresser à un outil technique. À quoi sert l'ouvre-boîte ? Ben, l'ouvre-boîte, ça sert à ouvrir les boîtes. Et vous voyez que la question est résolue. La philosophie ne peut pas répondre à quoi ça sert. Si vous demandez à n'importe quel philosophe d'aujourd'hui, il est plein des philosophies de jadis. Ce n'est pas de façon utilitaire. C'est un peu comme si vous me disiez à quoi sert de manger ? Ben, vous pouvez répondre d'une façon, ça sert à vivre, mais vous pouvez aussi répondre d'une autre façon. Ça sert à faire que dans mon sang s'intègrent des éléments hétérogènes, étrangers, qui enrichissent mon propre sang. De la même manière, pourquoi les autres m'enrichissent ? Les mots des autres, les paroles, les caresses des autres, les engueulades des autres font partie ensuite de mon sang. Le questionnement philosophique est une façon d'interroger les diverses pensées qui ont eu lieu dans l'histoire, qui n'ont pas de date de péremption.
La philosophie comme un enrichissement. Philippe Solers, je crois que c'est une définition de Robert Maggiore ici qui vous conviendrait bien, puisque votre conseil culturel aux auditeurs de France Inter, c'est de lire Hegel. Ça, c'est un beau conseil.
C'est un très bon conseil, d'autant plus qu'il y a en ce moment chez Hegel absolument personne. C'est d'une tranquillité absolue. Et pourquoi ça ? Et c'est d'ailleurs assez difficile à lire, il faut s'y mettre, mais c'est tellement reposant de lire quelque chose qui tient le coup. Et surtout, de s'interroger sur la raison pour laquelle Hegel et son ami Hölderlin, qui est venu à Bordeaux, pourquoi étaient-ils aussi fascinés, ces jeunes gens de 20 ans, par la Révolution française ? Ça, c'est tout à fait d'actualité. Hegel, penseur de la Révolution française. Oh, il n'y a personne, je vous assure. La Révolution française mérite qu'on passe par là. Hein. Les Français ne pensent pas, ils ont fait leur révolution. Mais regardez où on en est, la République, l'Union... Non, parlons de la Révolution française, parlons des Girondins malheureusement exécutés, auxquels Hegel pense. Oui, bien sûr, ils ont 20 ans, Hölderlin, Schelling, à Tübingen, ce sont les Allemands qui ont pensé la Révolution française. C'est ça qui est très important. Penser,
Philippe
Solers, penser.
Révolutionnaire, merci beaucoup Philippe d'être venu faire un petit tour dans Boomerang. Je rappelle que votre roman L'école du mystère est sorti jeudi dernier aux éditions Gallimard. C'est un Solers qui ravira évidemment vos admirateurs, comme il inquiétera tous ceux qui ne vous connaissent pas. Mais peut-être qu'il a au moins cet avantage d'être toujours dans l'interrogation. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur le site de France Inter, à moins que vous ne soyez déjà abonné au podcast de Boomerang. Dans ce cas-là, elle est déjà arrivée sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. La modernité, c'est quand même formidable. Il est 9h39, la 13 sage Sonia De Villers attend impatiemment son heure dans le studio d'à côté pour nous parler un rock avec Frédéric Bonneau. C'est l'instant M, l'instant média de France Inter, juste après ça.
Je commence le livre par la fin et j'ai le menton au bourrin. C'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout.
sans plus moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu paraît cassé, tout n'est qu'épié et clié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoire. Et une creepy song en étendard qui fait
je fais tout mon micro au mercurochrome. Entre les pop-up qui me sur le trône.
Merci, Augustin. J'adore. Boomerang.